Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer,
ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, hola, vous avez pu expérimenter sur Radio Canu la stéréo double mix avec une bande continue à droite, une bande continue à gauche. C'est expérimental sur Radio Canu. Nous sommes un jeudi de mars, nous sommes le 7 mars 2019 et c'était, ma foi, fort intéressant à écouter ce petit mélange. Techniquement, on n'est encore pas bien sûr de savoir pourquoi il y avait deux bandes continues en même temps, donc deux musiques différentes en même temps. Mais ma foi, c'était expérimental. Bienvenue sur Radio Canu si vous nous écoutez pour la première fois. En tout cas, il est l'heure d'un Canu Info du jeudi avec Laurent.
Bonsoir Delphine.
Et voilà, on va vous parler plein de choses ce soir. J'aurai une petite partie assez importante malgré tout, donc elle sera pas si petite que ça. Sur les petits profiteurs, hein, vous savez, c'est le grand capital, les méchants capitalistes. Nous parlons aussi de pollution qui tue avec Laurent, de projets inutiles, en particulier de la liaison Lyon-Turin. Nous parlerons de l'Arabie Saoudite, d'armée, de pampans, de pistolets et de cartouches. Nous aurons enfin de Canu Info un agenda, mais avant ça, nous aurons un débat surprise. Et alors, je dois vous dire qu'on n'a pas débattu ensemble de ce débat surprise. Donc, en fait, je sais de quoi tu veux parler parce que je lis dans ton cerveau.
C'est pas drôle.
Ah, si, ouais, c'est ça. Voilà, pour tout vous dire, ça va être surprise puisqu'on n'a rien préparé du tout. Et on sera peut-être pas d'accord en plus, parce que je sais que c'est un débat que nous avons souvent au comptoir. Et d'abord, on va commencer tout de suite avec une info du jour. C'est toi, Laurent, qui ouvre.
Oui, c'est en forme d'édito que j'ai appelé Bon débarras, mais la lutte continue, puisque le verdict a été rendu ce jeudi 7 mars dans le procès du cardinal Barbarin et de 5 autres sombres prévenus, donc proches de lui. Il y avait l'archevêque d'Auch, Maurice Gardès, l'évêque de Nevers, Thierry Braque de la Perrière, le vicaire Xavier Grillon, l'ancien responsable de la communication du diocèse, Pierre Durieux, et enfin la déléguée à l'écoute des familles du diocèse, Régine Maire. Ils étaient, ces 6 énergumènes, mis en cause par la justice, et surtout grâce à l'association La Parole Libérée, pour les dons non-dénonciation des agressions sexuelles commises par le père Prena, un ancien aumônier scout, donc qui a abusé de jeunes enfants et dont le procès arrive très bientôt. L'archevêque de Lyon, monsieur Barbarin, qui n'a même pas daigné se présenter tout à l'heure au tribunal pour l'énoncé du verdict, sûr de ne pas être condamné, je pense, puisque le parquet n'avait requis aucune peine, honteux parquet, dirons-nous. Il a quand même été condamné à 6 mois de prison avec sursis. La condamnation reste symbolique, mais elle est symboliquement forte. Donc il est reconnu, la justice reconnaît qu'il a protéger quelque part ce père Prénat et lui permettre de continuer ses agressions, et surtout ne pas lui permettre d'aller devant la justice. Sans la parole libérée, on rappelle, rien ne serait jamais sorti, enfin en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, et dans la lignée de tout ça, il a annoncé un double truc incohérent. Le premier, à 13h, il a dit qu'il allait rencontrer le pape François et qu'il lui remettrait sa démission. Bon débarras, dirons-nous. Mais en même temps, il fait appel du résultat, laissant entendre qu'il n'est pas d'accord avec le résultat du procès. Donc un double discours, une ambiguïté. Oh, vous me direz, c'est normal, hein, c'est l'Église catholique, hein, on ne va pas leur demander d'être honnête et transparent. Donc voilà, logiquement, mais bon, il n'y a aucune logique dans les systèmes irrationnels, comme l'est cette religion, le pape devrait défroquer Barbarin. Non mais là on rêve, allez arrêtez, ça nous ferait trop plaisir. Bon, malheureusement, les religieux sont toujours là et le progressisme n'est pas forcément ce qui les caractérise le mieux et le plus. Un petit exemple dans l'actualité du jour autour du mariage. Et du mariage civil dans un pays qui s'appelle le Liban et qui n'a pas le mariage civil. Donc au Liban, vous êtes obligé, si vous voulez vous marier avec quelqu'un, de le faire faire avec la religion que vous allez choisir. Alors c'est compliqué quand vous êtes de confessions différentes, parce que il faut en choisir une, hein, puisque les mariages mixtes religieux sont pas autorisés. Enfin, les religions étant racistes et excluantes envers les autres religions, il n'est pas possible de le faire. Donc il faut se convertir dans la religion de l'autre, etc. C'est un gros problème au Liban, c'est un gros problème en Israël, c'est un gros problème dans tous les pays où la démocratie est une démocratie religieuse, où la dictature est une dictature religieuse. Au Liban, c'est plutôt démocratique, mais c'est une démocratie si religieuse. Alors, il y avait un entretien entre le moufti de la République du Liban, le cheikh sunnite Abdelatif Derian, et la ministre de l'Intérieur libanaise, Madame El Hassan, qui est elle aussi sunnite, mais qui s'était déclarée pour l'ouverture d'un dialogue au sujet du mariage civil. Alors, donc, elle s'est montrée progressive. Forcément, ça n'a pas bien plu. Donc, lui, il l'a rencontrée, le moufti de la République du Liban. Il lui a dit que c'était totalement contraire à la religion musulmane. Que ça menaçait aussi la cohésion familiale. Ce gars, il n'a jamais dû sortir du Liban parce qu'il se serait rendu compte que dans beaucoup de pays du monde, le mariage civil existe en parallèle ou pas du mariage religieux et que ça ne pose pas de problème particulier. Bon, enfin, il aurait fallu qu'il soit ouvert d'esprit. Alors imaginez si à ce cheikh, on lui parlait d'union libre ou d'homosexualité, je ne vous raconte même pas les torrents d'insultes qui sortiraient de sa bouche, ou de mépris ou de haine. Bien évidemment, les exemples pullulent de ces croyances rétrogrades qui s'opposent notamment à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, qui s'opposent aussi à la liberté sexuelle et à plein d'autres choses. Même si ici, en Europe, on est plutôt protégé, puisque les combats féministes sont arrivés, on va dire, à l'après-guerre. Il y en a eu d'autres avant, des combats féministes, mais qui ont été regagnés, reperdus. Mais c'est les combats d'après-guerre et surtout des années 70 qui ont permis aux femmes d'obtenir quelques droits, et c'est quelques, hein, bien évidemment, pas totalement les mêmes droits que les hommes, mais on n'en est pas loin. Elles ont affronté la religion dominante de l'époque, hein, le christianisme en France, et avec tous les militants qui les entouraient, elles ont gagné un début d'égalité. Et ça s'est bien fait contre les traditions machistes présentes en France et contre les traditions religieuses très fortes portées par l'Église catholique notamment, puisque c'était quand même une des églises les plus rétrogrades qu'on ait ici chez nous au niveau des chrétiens. Quelquefois, les autres religions chrétiennes sont un peu moins intégristes, mais pas toujours. Donc bref, ça avait pas mal avancé. Alors aujourd'hui, on voit apparaître des reculs importants sous les coups, non pas seulement des chrétiens. Alors, on sait que une partie de ces chrétiens intégristes sont toujours contre l'égalité homme-femme. Mais maintenant, il y a une sorte d'association informelle entre toutes les religions monothéistes qui s'allient à certains mouvements de gauche, voire d'extrême gauche, contre l'égalité homme-femme au nom de traditions qu'il faudrait respecter, alors que les années 70 et les combats féministes ont montré qu'il fallait justement taper contre les traditions Et c'est grâce à ça que les femmes, en France notamment, ont acquis des droits contre les traditions machistes et religieuses. Alors, quelques chiffres quand même. J'en parle parce que demain, c'est la journée des droits des femmes et qu'il y a une émission spéciale sur Radio Canut. Donc aujourd'hui, rien que sur les salaires, au niveau de la moyenne de l'Union européenne, 16% d'écart entre les hommes et les femmes à compétences équivalentes. C'est la Roumanie qui est la meilleure, hein, c'était assez inimaginable, 3,5% d'écart. Et l'Estonie qui est la pire en ce moment, 25,6% d'écart entre les hommes et les femmes. Il y a aussi la pauvreté qui touche plus les femmes en moyenne que les hommes, alors dû notamment à ces problèmes de salaire et dû à l'existence de femmes qui s'occupent seules de leurs enfants, donc il y a plus de femmes pauvres. Il y a aussi bien sûr les violences qu'on ne va pas oublier, hein, 75% des femmes en Europe ont été victimes de harcèlement sexuel dans le cadre professionnel, dans le cadre de la vie de tous les jours, c'est une femme sur trois, hein, qui a subi des violences physiques ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans, ce qui est quand même énorme. Voilà, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais vous le savez, cette journée du droit des femmes a un vrai sens, parce que la lutte n'est pas terminée. D'ailleurs, on a quand même l'impression que même dans des endroits protégés comme peut l'être la France, les droits ont tendance à reculer un petit peu. Voilà, et pour finir, rappelons qu'aucune aujourd'hui des religions dominantes actuelles, même dans les courants majoritaires de ces différentes religions, christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, j'en passe des meilleurs, aucune ne repose sur l'égalité homme-femme, aucune ne propose l'égalité homme-femme, et puis finalement, si vous regardez, aucune n'a de dieu ou de prophète représenté avec des images de femmes. Donc c'est qu'il y a un sens, le machisme il est bien issu de ces religions monothéistes. Voilà. Bon, rappelons pour terminer cette introduction autour des religions de barbarins et du droit des femmes qui en découle, que c'est l'égalité homme-femme ne sera pas gagnée quand les femmes auront les mêmes pouvoirs que les hommes, mais quand il n'y aura plus de pouvoir du coup tout, comme ça nous serons tous aussi à égalité. Voilà, nous allons parler un peu de pistolet, de cartouche, parce que là, t'as envie de faire la guerre, on le sent bien.
Non.
Je sais, demain, c'est une journée combative, mais alors, on est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à la guerre.
Ah ouais, avec
les femmes
demain.
Et la guerre.
Ouais, alors plein de trucs. Vas-y. On va commencer par mon sujet de départ que j'ai lu sur forceopération.com. Oui, je lis des trucs de dingue, il faut que j'arrête. Donc, sur forceopération.com, avec des jolies photos de gens en kaki, hein.
Oui,
forcément. C'est donc un site d'information qui relaie tout ce qui peut avoir trait à l'armée et en particulier à son économie. Et donc j'ai appris sur ce site très très spécialisé que le ministère des Armées a lancé un appel à candidature. Ça a été publié le 2 mars dernier et c'est pour vous, hein, si tu m'écoutes et que tu es un industriel de l'armement. Ça va t'intéresser, alors il faut te dépêcher puisque la réception des offres se termine le 12 avril. Donc voilà, il va falloir quand même un petit peu que tu prépares ton beau dossier. Alors, c'est quand même un grosse commande, puisqu'elle semble rentrer dans ce qu'on appelait le PANG. C'est le programme pistolet automatique de nouvelle génération, c'est-à-dire que dans l'armée, on se plaint d'avoir des vieux trucs qui font pampan. Pour faire la guerre, c'est pas pratique.
Ça tue pas assez bien, ouais.
Bah, en fait, bon, il y a des trucs un peu modernes, mais il paraît que dans certains corps de l'armée, ils ont des trucs un peu vieux, voire des machins qui datent des années 50. Hein. Donc voilà, ils ont par exemple un pistolet dont la fabrication a été arrêtée en 78. J'ai appris ça.
Entretenu, ça continue de tuer si on met des balles dedans.
Ah, mais de toute façon, ça tue toujours, sauf que c'est moins efficace, paraît-il. Je relais l'information, d'accord.
Oui, l'armée veut tuer plus
et
mieux.
Donc toi qui as donc une industrie très performante pour l'armement, sache que dans la commande, il faut donc que tu proposes un tarif, hein, tout ça, pour 75 000 pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm avec étui, 45 millions de cartouches 9 mm à balles ordinaires, 2 millions d'autres subsoniques, 4 millions de cartouches de 9 mm marquantes, 7 000 kits réducteurs de son, hein, c'est un silencieux, hein, 15 000 capacités d'aide à la visée nocturne, voilà. 9000 pistolets d'entraînement, 25000 valises anti-écrasement et 800 outillages de cimblotage laser. Voilà.
Et donc là, avec ça, je vais amener mon matériel de démonstration et je vais peut-être vendre tout ça à l'armée et m'enrichir du coup.
Alors en fait, sache que les industriels vont avoir le droit de se regrouper en tant que candidat unique, tellement c'est une grosse commande. Voilà, c'était juste pour dire que l'argent, il y en a. Hein, voilà, toujours. Alors donc, je n'ai même pas la peine de m'étendre sur le sujet. Par contre, sur l'armée, j'ai un sujet lié aux femmes, puisque demain, c'est notre journée, rien qu'à nous, parce que nous le valons bien. Et c'est notre ministre, parce que là
de
aussi,
la guerre.
On le vaut bien, qui s'appelle Madame Parly, qui a annoncé qu'elle va lancer demain, le 8 mars, un plan mixité pour encourager les femmes à rentrer dans l'armée, parce que ça évolue doucement, voire par ça régresse dans certains corps. Alors, aujourd'hui, les femmes, elles représentent 15,5% des effectifs, pas beaucoup, et au niveau des chefs, officiers et officiers généraux, 7,8%. Autant dire que là, il y a quand même un petit écart, hein, quand même, qui est sensible. Alors, dans l'armée de terre, c'est pas génial, puisque là, elles sont que 10%. L'armée de l'air, elles sont 23%. Donc, c'est pour ça que vous avez ce petit équilibre qui se fait, mais enfin, dans l'armée de terre, quand même, hein, un effort, mesdames. Allez, vous le roulez dans la bouche, s'il vous plaît. Donc, l'idée, là, c'est d'augmenter le nombre de femmes dans l'armée d'ici à 2025 de 10%, pour madame, notre ministre, madame Parly. Donc, c'est super intéressant. Hein, puisque là, on a l'égalité des genres et des sexes, hein, qui s'y mettent. On rappellera que l'armée est quand même encore et toujours traitée, et par les femmes qui y sont et par les femmes qui ne souhaitent pas y rentrer, de misogyne, de sexiste et voire de carrément violente pour les femmes.
Et que la seule solution, c'est de supprimer l'armée. Bon, c'est
voilà. Alors, on rappellera ça aussi que il n'y a pas besoin de Rambo aujourd'hui à l'armée, parce que alors, cette annonce a provoqué... des déclarations, ma foi, sexistes, violentes et misogynes, hein, je le fais dans l'autre sens, sur, évidemment, les réseaux commerciaux et sociaux. Là, l'homme musclé s'est énervé. Comment ça, des femmes à l'armée? C'est inacceptable. On rappellera qu'aujourd'hui, avec un drone, on tue plein de gens et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des muscles. Hein, voilà. Et que l'armement étant très puissant, c'est pareil. Hein, on n'a pas besoin d'avoir des muscles pour tuer tout plein de gens. Et puis,
il y a des femmes qui ont des muscles.
Voilà, en plus de ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, leur propos à eux, c'est ça. C'est qu'en fait, les femmes, elles sont pas le corps.
Oui, c'est
pour entrer dans l'armée. Alors par contre, elles ont le cerveau. Mais enfin bon, ça c'est ce que beaucoup de femmes ont répondu. Nous, ça nous pose quand même le problème que les cerveaux bien équipés aillent à l'armée, que ce soit des garçons ou des filles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aussi. C'est toujours à toi, maintenant.
Ah, c'est
oui, oui, non, mais je vous laisse réfléchir par vous-même sur cette mixité choisie et voulue dans l'armée.
Bon. Voilà. On va parler du courage ou de l'absence de courage face à l'armée, à l'Arabie Saoudite. Ça va être encore en lien avec des armes et avec des brousoufs. Puisque plusieurs infos se sont télescopées aujourd'hui. La première, c'est les représentants de 28 États membres de l'Union européenne qui ont rejeté hier mercredi la liste noire contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui était proposée par la Commission européenne. Alors on se dit, bah, pourquoi la Commission européenne propose ? Voilà, on met 8 États membres qu'on considère comme des paradis fiscaux. Donc il faut absolument les contrôler, faire des choses. Et c'est rejeté par les 28 États membres. Et ben pour deux raisons. C'est parce que la première, c'est qu'il y a l'Arabie Saoudite dedans. Et la deuxième, c'est qu'il y a 4 territoires américains. Pourtant, ce sont bien des lieux de blanchiment d'argent. Hein, il y a eu plusieurs exemples, plusieurs affaires. Mais non, a priori, l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, d'abord, ont fait pression auprès des 28 membres de l'Union européenne. Et puis c'est pas tout, il n'y a pas besoin que des États-Unis. La France a fait pression aussi parce que non, attention, c'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Donc les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne qui doivent valider officiellement tout ça, qui devaient aujourd'hui lors d'une réunion, on n'a pas eu écho, mais a priori c'est mal parti. Dans les pays sur la liste de départ, hein, il y avait quand même l'Iran, l'Irak, le Pakistan, l'Éthiopie, la Corée du Nord, il fallait rajouter plein de membres, il y en avait plein qui devaient être dedans, mais on ne touche surtout pas aux pays avec qui on fait du business. En tout cas, c'est la doctrine de la France. Et il y avait aussi, dans les propositions, l'idée d'exclure d'autres pays qui sont trop proches de l'Union européenne, trop amis avec l'Union européenne, comme les Bahamas, les Bermudes, Guernesey, Hong Kong, l'île de Man, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, Jersey et Panama, qui sont très proches, en fait, souvent des pays anglo-saxons, parce que... c'est des paradis fiscaux, mais c'est nos amis, ils sont proches de nous. Voilà. Donc c'est un gros scandale, hein, ce qui est en train de se passer. C'est pas la première fois qu'on se moque des listes de paradis fiscaux ou de listes de pays qui pratiquent du blanchiment d'argent, hein, que ce soit des listes communes ou des listes différentes. parce que finalement, ces listes, elles sont toujours très limitées, elles sont toujours pas réalistes. En fait, c'est les intérêts de chaque pays va essayer de bloquer des pays irrespectueux au possible des règles internationales, mais avec qui on est amis, avec qui on fait du commerce. Donc voilà, Monsieur Macron étant très ami avec l'Arabie Saoudite et aimant faire du commerce avec les criminels saoudiens, il bloque toutes les choses autour de tout ça. On va en reparler d'ailleurs derrière, puisque l'Allemagne, elle, va beaucoup plus loin que la France. Donc on rappelle que l'Allemagne a décidé à l'automne dernier de suspendre les exportations d'armes avec l'Arabie Saoudite après la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, découpé en morceaux dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Ça devait s'arrêter très bientôt, ça devait s'arrêter le 9 mars, et ils viennent de décider de repousser au moins cette interdiction jusqu'à fin mars. Alors ça négocie un petit peu au sein du gouvernement. Il faut dire que le gouvernement allemand, c'est une coalition droite-gauche, on rappelle, ce qui marche pas toujours très bien, la CDU et le SPD, et que le CDU, donc le parti plutôt de droite, enfin pas plutôt, de droite d'Angela Merkel, est plutôt pour assouplir ces règles qui limitent le commerce avec l'Arabie Saoudite. Ils sont plus libéraux, plus proches du commerce qu'autre chose. Et le SPD, qui est plus à gauche, les sociodémocrates, eux, ils se disent non, faut continuer à bloquer les choses. Alors, bien sûr, c'est totalement à l'opposé de la moindre idée qui pourrait germer dans la tête d'un libéral, d'un commerçant, comme peut l'être le président de la République française. Mais il faut dire aussi que l'état du pays n'est pas le même. L'Allemagne a été, suite à la Deuxième Guerre mondiale, est rentrée en fait dans une phase de démilitarisation. Et aujourd'hui, dans l'opinion publique, les ventes d'armes sont impopulaires, ce qui n'est pas le cas en France, malheureusement. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué publiquement, pour Angela Merkel et la CDU, de dire non, on va continuer de vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui découpe des journalistes dans ses ambassades. Donc ils sont plus coincés, alors que Macron, il en a rien à faire, parce que derrière, la majorité de la population française n'en a rien à faire de faire du commerce avec l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc c'est pas la même problématique, c'est bien des questions de politique intérieure qui bloquent un petit peu les choses. Voilà. Et puisqu'on parle de Khashoggi, il s'est passé un truc au niveau de l'ONU qui arrive assez rarement. 36 pays se sont liés et ont lancé aujourd'hui un appel devant l'ONU pour réclamer à l'Arabie Saoudite une réelle enquête, c'est-à-dire un truc un peu rapide, un peu approfondi, au sujet du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Avec une phrase qui a été dite par l'ambassadeur islandais, Harald Aspelund, qui a dit, je cite, « Nous condamnons avec la plus grande fermeté le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, dont l'Arabie Saoudite a confirmé qu'il avait eu lieu dans son consulat à Istanbul. Les enquêtes doivent être rapides, efficaces et approfondies, indépendantes et impartiales et transparentes. Les responsables doivent rendre des comptes. » Voilà. Alors c'est plutôt pas mal, 36 États se sont liés, donc à l'Islande, on notera l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. C'est pas tous les jours que ça arrive au niveau de l'ONU. Tous les pays ont la possibilité de parler de sujets comme ça. Mais c'est a priori la première fois, en tout cas c'est Human Rights Watch, l'ONG, qui le dit, la première fois qu'un groupe de pays décide de faire une déclaration commune sur les droits humains en Arabie Saoudite devant le Conseil des droits de l'homme. Donc voilà, c'est de l'ONU. Bien évidemment. Donc ça va plutôt dans le bon sens. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a parlé aussi, donc c'était hier, des détentions arbitraires des femmes qui défendent les droits humains en Arabie Saoudite. Donc là aussi, ça commence à faire lourd sur l'Arabie Saoudite. On aurait espoir qu'il se passe vraiment quelque chose. Il faut dire que Madame Galamard, qui était mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avait souligné, alors ça date déjà d'un mois, mais elle avait dit dans un truc officiel que le meurtre de Khashoggi avait été planifié et perpétré par des représentants de l'État d'Arabie Saoudite. On rappelle quand même que l'Arabie Saoudite a un procès en ce moment avec 11 suspects et dont 5 risquent la peine de mort. Mais en fait, tout le monde a bien compris que c'était pas les vrais coupables, en tout cas c'était pas ceux qui avaient donné les ordres. Et donc c'est de ça que certains et certaines attendent de la part de l'Arabie Saoudite. Alors c'est voué à l'échec, hein, 36 pays, c'est loin d'être la majorité, et puis des gros pays comme les États-Unis, la France, qui ont une influence importante, bloquent les choses puisqu'ils sont amis avec les criminels. Donc forcément on condamne pas son ami, même si on a vu son ami assassiner, découpé en morceaux, un journaliste. On en est là aujourd'hui, mais bon, voilà, ça bouge un petit peu autour du cadavre de ce journaliste.
Alors, on va continuer avec le blanchiment, puisque j'attaque ma série sur les profiteurs, et je commence donc avec le blanchiment. Je trouve que ça va bien avec tout ce que tu viens de quand même de raconter. C'est une info qui a filtré, on va dire mardi, qui est issue d'une enquête réalisée par les journalistes regroupés dans l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, l'OCCRP. Une enquête dont, apparemment, elle n'est pas finie. Hein, mais je pense que c'est le genre d'enquête qui vont durer. Vous savez, c'est avec les papers et tout ça. On en apprend beaucoup. Et à chaque fois, on en apprend un peu plus une fois que les informations sont sorties. Là, on apprend que donc, il y a les banques ING, ABN AMRO, la Raiffeisen Bank International, la Deutsche Bank, Citigroup C, la Nordea Norb, qui est une banque finlandaise, et une filiale du Crédit Agricole Indo-Suez, qui ont fait partie d'un réseau de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale lié à la Russie par l'intermédiaire d'une banque russe qui s'appelle la Troïka Dialogue. Alors la Troïka Dialogue est une banque qui a été pendant très longtemps la première banque russe, et puis ça a été racheté par le groupe public Sberbank. Alors tout ça a fait que là, avec cette information, d'après les échos, le cours des... en bourse de tous ces établissements a bien chuté. Les échos nous fait une joie de nous donner des petits pourcentages pour nous montrer à quel point tout ça s'est bien cassé la figure. Alors, il y aurait eu un certain nombre... Alors, tout ça serait passé par des banques lituaniennes, hein, parce qu'il faut... C'est la mondialisation, il faut complexifier exactement toutes ces choses-là, hein, entre une banque en France, en Allemagne, en Finlande, en Autriche, hein, puisque la Raiffeisen Bank International, c'est une banque autrichienne, et puis ING et tout ça, et donc déjà des banques qui sont aussi des multinationales, ont donc fait du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale. Oui, parce que juste blanchir, c'est pas suffisant, hein, il fallait aussi s'évader. Alors apparemment, donc, ça a été via des comptes en Lituanie, et ça a permis d'acheter un certain nombre de bateaux, de bijoux, même des billets pour la Coupe du Monde. Enfin, ça a permis de faire des cadeaux. Et on en apprend un petit peu plus sur la tribune de Genève, donc du média suisse, sur Indo-Suez, donc cette filiale du Crédit Agricole, qui aurait reçu des virements, 500 virements pour une valeur de 150 millions de dollars. Tout ça serait passé par des sociétés offshore, avec des sociétés écrans, et tout ça dirigé par des Russes. Donc c'est une espèce d'aller et venue d'argent. Vous voyez, les transactions sont passées d'un côté, elles sont ressorties de l'autre, et tout ça aurait été basé sur des faux contrats, bien évidemment, parce qu'il faut soi-disant avoir des comptabilités. Avant, on disait un bon père de famille, hein, il paraît que maintenant, ça se dit plus trop.
Je crois que c'est quand même encore un terme officiel.
Je suis pas sûre, mais il n'y a pas très longtemps, je crois que ça se dit plus. Mais en tout cas, voilà, on est bientôt à la journée de moi. La femme. Donc je voulais quand même le préciser. En tout cas, là, les banques ont bien fait de la comptabilité un bon père de famille, puisqu'ils ont bien nettoyé leur argent. Alors c'est une enquête, hein, qui ne fait que démarrer, mais qui montre qu'il y a une implication mondiale au niveau des banques, et puis surtout que vous êtes peut-être au Crédit Agricole, et donc alors certes c'est une filiale, vous allez me dire, mais en tout cas vous êtes quand même dans des banques de merde, hein, il faut bien le dire. On a eu des affaires avec la Société Générale et ainsi de suite. Il faut davantage s'intéresser à nos banques, savoir ce qu'elles font de leur argent, où elles le placent, et puis c'est très compliqué. Là évidemment il nous faut des journalistes qui passent des mois sur ce genre d'enquête pour arriver à nous ressortir tout ça, parce que effectivement c'est bien, parce qu'aujourd'hui il y a des groupes de journalistes au niveau mondial qu'on arrive à ressortir ces informations, parce que sinon ça marche pas. Hein, alors d'abord ça peut être un journaliste sur place, souvent c'est dans un pays un journaliste ou une journaliste qui va sortir une information, et puis ensuite ça se complexifie, ça s'organise au niveau des médias, et puis c'est comme ça qu'on arrive à avoir ces enquêtes. Bon, ce qui moi m'a fait marrer, c'est que du coup en bourse, oh, c'était la mauvaise nouvelle, ils se sont tous un petit peu cassés la gueule. Bon, vous inquiétez pas, ça va remonter.
Ça remontera mal. Ouais.
Hein, voilà. Alors une autre information pour les profiteurs, on va essayer d'être rapide. On avait appris que du côté du centre commercial de La Part-Dieu, on allait peut-être pouvoir magasiner le dimanche. Oui, je parle québécois ce soir. C'est Jean-Philippe Peloux-Daniel, le directeur du centre commercial de la Part-Dieu, qui souhaitait que ça soit ouvert le dimanche, le centre commercial. Bah oui, parce qu'il y a tellement de gens, et puis qu'il y a des touristes même qui paraît qui vont à la Part-Dieu, que quand même c'était
super.
Bête.
Tu viens à Lyon pour aller visiter la Part-Dieu. Et amis touristes, sois intelligent s'il te plaît.
Non mais ça c'est l'argument... C'est l'argument de la direction. Pardon, je suis pas sûre que ça soit. Même si le touriste, il a besoin d'aller s'acheter un truc au centre commercial, je pense que c'est un argument. Le touriste, qui est beaucoup utilisé par les capitalistes pour pouvoir nous faire ouvrir les magasins le dimanche. Donc, il y a eu cette demande qui a été faite et apparemment, pour une fois, la ville de Lyon a dit non. Oui, je laisse un blanc.
C'est surprenant.
Vous intégriez bien tout ça. L'idée, c'était donc d'ouvrir 7 jours sur 7, non-stop. Voilà.
Alors, puis ils auraient aimé 24 heures sur 24 aussi. Mais
ah bah, pourquoi pas. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il faut payer les gens quand même, le 24 heures sur 24. Alors ça, c'est un petit peu problématique quand même pour le patronat. Mais l'idée du dimanche, c'est que ça aurait pu bien marcher. On aurait attiré des nouveaux gens. Alors, on sait que c'est pas si simple, puisqu'il y a beaucoup de centres commerciaux maintenant à Lyon et autour de Lyon, et qu'il y a une belle concurrence. Et qu'évidemment, si jamais il y en a un de ces centres commerciaux qui obtient une ouverture le dimanche, on peut penser que les autres vont vouloir faire pareil pour essayer d'attirer eux aussi les consommateurs et les consommatrices. Alors il paraît que chaque année, il y a 36 millions de visiteurs, pas des consommateurs et des consommatrices, qui vont au centre commercial de La Part-Dieu. Et je vous rappelle qu'il y a des gros travaux. Sur ce centre commercial, c'est énorme et que l'idée elle est de multiplier encore ce nombre de consommateurs et de consommatrices, de visiteurs qui se promènent dans les petites allées, et que c'est censé devenir un havre de consommation au sein de notre jolie ville. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est pas prêt tout de suite d'arriver. Une autre information, information rapide. J'espère que vous avez lu le Canard enchaîné de cette semaine. Si c'est pas le cas, ben vous voilà une bonne nouvelle. Vous allez devoir aller l'acheter parce qu'il faut lire ce papier sur le directeur d'audience. Ouais, je sais, il y a plein d'autres choses à lire sur le Canard enchaîné, mais c'est toujours bien de lire le Canard, non? Vous trouvez pas? Et alors, vous pouvez pas l'acheter, d'aller à la bibliothèque. Je vous rappelle que ça se fait aussi. Alors là, on a donc un monsieur, il s'appelle Patrick de son prénom, Béziers de son nom de famille, et il a dirigé pendant 15 ans Audience, un groupe de protection sociale, et si vous êtes dans le spectacle, ça vous parle. Voilà. Si tu es administrateur ou administratrice d'une association qui fait du spectacle vivant, par exemple, ou du concert, ça te parle parce que c'est là qu'on vire les charges, comme disent les patronats, ou plutôt les cotisations sociales. On les verse sous sa audience. Ça sert aux intermittents, aux congés spectacle, donc c'est une instance importante. Ça sert aussi pour les caisses de retraite des journalistes et les pigistes. Et ben, toujours est-il que pendant 15 ans, Patrick, il a bien fait du blé.
Sur le dos des cotisations des travailleurs.
Donc là, il est parti en 2018 et donc on a appris grâce au Canard enchaîné qu'il est parti avec
un petit bonus.
Petit. 1 900 000 euros.
C'est un poil beaucoup quand même.
C'est un poil beaucoup. Alors, il faut déjà savoir qu'a priori, il avait en salaire brut annuel 422 000 euros.
Ce qui était déjà bien.
Ah, c'est pas mal, pardon. Mais...
d'ailleurs, il ne bossait pas que là, il était aussi dans un autre truc. Ouais. En fait, c'est des gens-là, au placé, ils cumulent. Dans le capitalisme, on cumule pas mal.
Donc, alors là, il est parti avec 12 mois de salaire, 300 000 euros net d'après donc, les calculs du Canard enchaîné. Il a eu évidemment des indemnités légales.
Sa retraite, normal.
Voilà. Et puis, alors, ça, c'est indemnités légales. Il a eu en plus des doublons avec ça. Il a eu des congés aussi, ses congés payés, a priori, il les avait pas pris. Donc, il a fallu les payer. Enfin, tout ça fait qu'on arrive à 1,9 million. Ce qui est quand même pas mal. Alors, quand on sait que c'est quand même audience un machin à but non lucratif, ça fait toujours marrer de voir qu'au lieu d'aller pour faire baisser un certain nombre de cotisations, de choses, mieux payer les salariés et les autres, vous voyez ?
En fait, c'est là, c'était un truc à but non lucratif, sauf pour le directeur.
Alors, le Canard enchaîné, évidemment, s'attaque un petit peu à sa personne qui a répondu au Canard enchaîné et qui explique qu'en fait, comme en fait, il avait plusieurs instances au sein d'Audience, parce qu'Audience, c'est un gros machin, il faut bien l'entendre, en fait, c'était pas si cher payé, puisqu'il avait, s'il sectionnait tout, il avait que 5000 euros par mois pour chaque activité. Un escroc, voilà, merci, je cherchais le thème. Bon, il y en a aussi, d'ailleurs le Canard enchaîné là-dessus, on sait qu'ils n'aiment pas du tout le syndicat CGT, évidemment dit qu'il y a eu des qu'il a été peut-être un peu trop protégé, peut-être en interne aussi, et qu'il avait mis dans sa poche la CGT, voilà.
Ce qui est possible.
Tout à fait.
Pas la CGT, mais les représentants de la CGT.
Bien sûr.
Son entreprise.
Merci de m'en reprendre. Après, franchement, quand moi je dis les syndicats Les syndicalistes de la CGT, il y en a des biens. Par contre, la Confédération, c'est pas mon truc. Ouais, voilà, on peut aussi se mettre à chanter, tout à fait. Enfin, voilà, vous irez lire l'article, ce sera plus simple. Là, on va passer à autre chose. Comme ça, en plus, vous irez acheter le canard ou le lire à la bibliothèque. Sinon, il y a des gens qui s'énervent contre Amazon dans la région. Ça se passe à Colombier-Saunier. Hein, c'est pas très loin de l'aéroport Saint-Exupéry. C'est donc dans le Rhône. Et il y a un nouveau recours en justice qui a été déposé par deux associations, puisque Amazon a décidé d'implanter un nouveau centre international de logistique près de l'aéroport. C'est pour en faire son plus grand centre en France. Ça fait peur. Alors l'idée, c'est d'avoir un bâtiment de 160 000 mètres carrés. Il y en a qu'on calculait, moi pas. Ça fait une quinzaine de terrains de football. J'ai pas calculé. Vous vérifierez si c'est vrai ou pas. En novembre dernier, il y avait déjà eu un permis de construire qui avait été attaqué. Hein, c'est en novembre. Et là, il y a un nouveau recours qui est déposé devant le tribunal administratif de Lyon. Donc ça repousse encore l'apparition de ce centre international de logistique. L'idée, là, évidemment, c'est de se battre contre la pollution, les atteintes à l'environnement. Je vous rappelle qu'un centre Amazon, c'est des camions qui font des allers-retours. Beaucoup, chaque jour. Surtout quand ça veut être le plus grand centre de France. Qu'il y a déjà l'aéroport à côté, dans le coin. Hein, que ça fait aussi beaucoup d'avions qui polluent très fortement, que ça fait aussi plein de bagnoles qui vont sur place pour aller à l'aéroport, que là on met encore des camions dans le coin et que ils en veulent pas. Alors il paraît que évidemment le maire, hein, il s'appelle Pierre Marmonnier de Colombier-Saunier, lui il est super content parce que évidemment il y a de l'emploi à la clé. Alors comme toujours, on va répondre à Pierre que quel emploi? Quel emploi propose aujourd'hui Amazon?
Parce que chaque fois qu'un emploi est créé chez Amazon, c'est plusieurs qui disparaissent ailleurs localement. Du coup, c'est un peu
plus compliqué que ça. Par contre, c'est quel emploi est créé pour faire de la manutention, payer au SMIC, c'est pas terrible. Nous, cet emploi-là, on n'en veut pas.
Vu l'efficacité et les robots qu'il y a présent, on perd beaucoup d'emplois à chaque création d'emploi.
Eh bien, tu sais quoi? Eh bien, c'est ce que Kim Mulfeld, il a dit, monsieur.
Non, il ne peut pas. Je peux pas être du même avis que Kim Mulfeld.
Si. Voilà.
Non, finalement, c'est bien Amazon.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en info rigolote? Une info rigolote pour terminer. Goldman Sachs, vous savez,
oui. Une banque.
Une banque. Une firme.
Une firme.
Excuse-moi. Alors, bon, ça cogite.
Ah bon?
Ah, ça cogite. Jusqu'à présent, il y avait un dress code obligatoire. Oui, je le dis en anglais. Une tenue devait être appliquée, oui, chez les nombreux bonhommes qui travaillent plus tôt que face aux quelques femmes, qui, elles aussi, étaient bien évidemment, jusqu'à présent, obligées d'être vêtues d'une certaine manière. Eh bien, ça va changer, puisqu'il paraît que le costume-cravate obligatoire ne va plus être obligatoire.
Ouh, une révolution. Le bleu de travail va changer chez les cadres.
Oui, alors c'est pas une information essentielle à votre vie, hein, vous en remettrez tout à fait, mais ça prouve quand même qu'il y a des endroits où l'homme a du mal à se libérer, parce que là, c'était quand même le costume-cravate dont il faut se défaire. Alors, on espère que les femmes pourront se défaire du tailleur, hein, bien évidemment, pour pouvoir elles-mêmes porter le costume-cravate, ça serait quand même plutôt assez rigolo. Mais c'était assez peu... flexible, c'était assez rigide, hein, quand même dans cette firme. Et il fallait quand même qu'il y ait des souliers à boucles, des costumes sur mesure, enfin tout était quand même assez précis. Ah bah, tu représentais une firme, donc tu ne pouvais pas t'habiller n'importe comment. Donc c'est quand même 36 000 salariés, hein, qui vont pouvoir souffler un petit peu. Alors évidemment, j'imagine qu'il y en a les 36 000 salariés. Non, en fait non. J'allais dire qu'il y a peut-être des gens qui sont en bas de la chaîne et qui portent des tenues, des vrais bleus de travail, parce que peut-être qu'ils font le ménage. Mais j'imagine que Goldman Sachs sous-traite, donc on va retirer ce propos. C'est marrant quand même de voir comme en 2019, il y a encore des entreprises qui peuvent imposer des tenues quand même conservatrices à ces travailleurs et ces travailleuses. Par contre, on ne sait pas exactement comment les gens ont le droit de s'habiller. Est-ce qu'ils ont le droit de venir en short du style à Palmier, à Tahiti, tu vois?
Avec des tongs?
Avec des tongs.
Ça m'étonnerait.
Eh ben, je ne suis pas sûre. Donc ça, en fait, pour l'instant, je pense qu'ils vont se chercher un petit peu, hein, pour savoir s'ils ont le droit de mettre des sandales, des tongs, des shorts, et puis peut-être des polos. Imagine des polos. Parce que ça, les polos, c'est pas mal aussi.
La révolution chez les cadres de Goldman Sachs.
Ouais, c'est pas gagné. Voilà.
Alors, je vous propose de réfléchir autour d'un fait divers, hein, qui s'est passé dimanche dernier, juste à côté de Lyon. On était dimanche après-midi, un céréalier, c'est-à-dire un agriculteur productiviste et pollueur, décide d'épandre un produit ultra dangereux dans son champ, un herbicide, très exactement. Pourtant, c'est journée de vent, hein, donc c'est, normalement, il y a des contraintes un petit peu pour pas que la pollution aille trop loin, mais là, bon, vraisemblablement, il n'en avait que faire. Donc, il y a un individu qui passe et qui s'énerve contre lui. Alors, on n'a pas le détail de l'altercation. Ce qu'on sait, c'est que celui qui était le plus fort physiquement, c'était celui qui n'était pas agriculteur et qui a tapé sur l'agriculteur en lui reprochant de pulvériser, de bousiller la planète et de pulvériser des produits chimiques autour de lui et de risquer de le rendre malade. Alors bien évidemment, c'est plutôt la parole de l'agriculteur qui a été portée par les journalistes, puisqu'on a montré que son oreille abîmée, parce qu'il a dû taper un peu fort hein, quand même. Enfin voilà, ça s'est battu. Ça a été passé sur les réseaux sociaux. La FDSEA, donc Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, le syndicat productiviste pro-pollution et de droite du monde agricole, est venu soutenir l'agriculteur. Il veut même peut-être se porter partie civile pour aller plus loin. La Chambre d'agriculture, à travers son président, est allée soutenir l'agriculteur aussi. Bon, ça c'est plus logique, hein, puisqu'on est directement dans le milieu professionnel. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce truc ? Bien évidemment, la réaction semble largement excessive et la violence est sûrement évitable. Ou pas. Car cette violence, ça nous questionne un petit peu. Grosso modo, face à quelqu'un qui jette dans l'air qu'on respire et autour de soi des produits cancérigènes et dangereux, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est la question que pose finalement l'individu qui a agressé l'agriculteur. Est-ce qu'on doit laisser cet agriculteur, qui est un assassin, qui est un criminel, puisqu'il répand des produits qui vont tuer des êtres vivants ? Alors, peut-être que ce n'est pas un criminel sur un être humain directement, mais c'est un criminel sur le ver de terre, sur les plantes qui poussent, sur plein de choses. Hein, si vous analysez le champ, la terre, issue d'une exploitation céréalière productiviste comme celle de l'agriculteur, il n'y a aucune vie présente. Les vers de terre n'existent pas, les insectes non plus, tout est mort. Hein. C'est donc quelque part un criminel de la nature. Et en plus, ces produits donnent des cancers. Est-ce qu'on doit le laisser faire ? Alors, qu'aurait pu faire cet individu qui passe à côté ? Bien évidemment, la loi est du côté du pollueur et de celui qui épand ou répand des produits cancérigènes, des produits dangereux, des produits toxiques. Ils sont protégés, ces agriculteurs. Alors, la question qui se pose, c'est y avait-il une alternative ? Eh bien, oui, il y avait une alternative. Il aurait dû, cet individu, continuer à se taire, continuer à respirer les produits dangereux, en espérant ne pas choper le cancer ou une autre maladie issue de ce truc-là. Sinon, eh bien, il n'y a pas de sinon, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Nous ne pouvons rien faire face à ces gens qui mettent en danger la nature et nous-mêmes avec les produits toxiques. Donc là, voilà. Alors, je ne vais pas valider la violence qu'a portée cette personne contre l'agriculteur, mais personne ne pose la question de la morale de tout ça. Est-ce qu'il est plus moral de mettre des produits cancérigènes et toxiques dans l'environnement avec, on sait, des personnes qui vont en mourir derrière, pas que des petits insectes dans le sol, ou est-ce que c'est bien plus immoral que quelqu'un s'énerve et aille taper sur celui qui détruit la nature ? Voilà, bah je connais la réponse judiciaire, hein, puisqu'il va sûrement être condamné, et la justice permettra aux paysans pollueurs de continuer de détruire l'environnement et d'empoisonner la vie des autres. Alors il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'actions quand même contre les agriculteurs. Normalement, ils sont pas censés émettre ces produits quand il y a du vent et le week-end. Là où il est, parce que ces produits, ils sont volatiles, et du coup, mais on a plein d'exemples d'écoles hein, qui sont autour de champs, notamment dans toutes celles et ceux qui plantent des vignes et qui ne sont pas en bio. Il y en a certaines qui sont proches des écoles avec des problèmes sanitaires qui sont bien évidemment cachés, puisqu'il ne faut surtout pas parler de tout ça, le vin étant une boisson sacrée en France. Donc bref, on est quand même dans un triste monde, mais vous le saviez déjà. Je continue ou pas? Non, c'est pas
à
moi.
Ah, c'est à moi.
Oui.
Mince.
Tu vas faire pseudo-science encore?
Ouais, c'est juste pour en remettre une couche.
Ouais, vas-y, continue, j'aime bien.
Non, mais un jour, vous serez de notre côté, vous verrez, vous qui nous écoutez, et qui continuez à prendre des compléments alimentaires et des vitamines. C'est 60 millions de consommateurs, le magazine, qui nous propose un numéro spécial qui n'est pas génial, mais qui a l'intérêt quand même d'avoir une partie consacrée à ces compléments alimentaires qu'on nous vend à la pelle. Dans un certain nombre de magasins, et pour nous dire que, en fait, c'est sans intérêt, voire dangereux, pour tous ceux qui disent qu'il va y avoir une meilleure performance sur notre cerveau. C'est un magazine, c'est un numéro spécial cerveau, hein, voilà. Donc il y a une partie qui est, moi, je trouve pas très intéressante, mais cet article sur, qui s'intéresse donc à son complément alimentaire, vous savez, comme les oméga 3 qui nous disent qu'on va avoir un meilleur cerveau, une meilleure mémoire, qu'on va mieux retenir les choses, et en particulier qui cible un public consommateur assez précis. Les étudiants et les étudiantes, toi qui veux passer des diplômes, prends tous ces compléments alimentaires et tu verras, pas la peine de travailler, non c'est pas vrai. Mais en tout cas, ton cerveau ira mieux. Bon, 60 millions de consommateurs a donc mené sa petite enquête et nous explique que tu n'auras pas une meilleure mémoire, tu ne vas pas enrayer le déclin cognitif de ton cerveau en prenant un certain nombre de produits vendus dans les magasins comme les oméga 3, le DHA, l'EPA, enfin tous ces trucs-là que vous consommez peut-être. C'est assez intéressant parce qu'il s'intéresse aussi à la vitamine D. Et si pour une partie de ces compléments alimentaires, donc là ils se sont intéressés vraiment à ceux qui sont vendus soi-disant pour le cerveau, hein, ne sont pas intéressants puisqu'ils n'apportent absolument rien, hein, disons-le, certains de ces compléments alimentaires peuvent être dangereux. Alors il peut y avoir des surdosages, en particulier quand on les donne aux enfants. Et puis derrière, il peut y avoir des problèmes, hein. Vous pouvez être malade, des problèmes de constipation, de la perte de poids, des nausées, de la diarrhée, vous pouvez avoir des calcifications rénales et vasculaires, de l'hypertension, de l'anémie, enfin tout un tas de trucs plus ou moins graves, plus ou moins sérieux, mais quand c'est les enfants, tout de suite c'est plus grave. Donc c'est à lire parce que ça vous fera un bon support au prochain dimanche en famille pour dire arrêtez d'acheter ça. Vous ne faites qu'entretenir des multinationales du complément alimentaire et vous videz votre porte-monnaie pour rien, ça ne sert à rien. 60 millions de consommateurs s'intéressent aussi à tous ces comprimés, ces médicaments, soi-disant, hein, j'y mets des guillemets et j'en souris en te regardant, qui contiennent de la caféine, en nous disant arrêtez ça aussi. Vous ne serez pas plus en forme. À la rigueur,
ça t'empêche de dormir quand même.
Ouais, mais du coup, ça t'empêche de dormir. Donc là,
or, on rappelle que
tu as besoin de dormir.
Et la mémoire, et voilà, notamment, est beaucoup plus efficace quand on dort bien. Enfin, bon, oui, bien.
Et voilà. Et donc, globalement, ce qu'on pourra retenir de tout ça, c'est que le mieux, c'est d'entraîner sa mémoire, de la travailler, et toute sa vie. Parce qu'effectivement, quand on arrive à un certain âge, y a un moment où on ne pourra pas y faire grand-chose, hein, surtout quand après on a certaines maladies. Mais par contre, entraîner la mémoire, ça reste absolument essentiel tout au long de sa vie, pour en avoir toute sa vie. Voilà, et qu'on évite ce genre de truc. Il y a aussi des choses comme le ginkgo. Alors ça aussi, je ne sais pas si t'es allé récemment dans ce genre de magasin qui te vend tout un tas de produits. Bon, on le retrouve beaucoup dans les parapharmacies, hein, maintenant. Mmh. Et puis c'est un accès libre, hein, donc vous en avez des pelletées entières, et puis vous démerdez tout seul en plus pour choisir des produits qui ne servent à rien ou qui peuvent être dangereux, puis vous en bourrez peut-être votre petite famille, et ben là c'est donc le ginkgo biloba, ça sert à rien. Voilà. Et puis en plus, si tu as un traitement anticoagulant, ça peut être dangereux. Voilà, donc c'était très rapide, c'est juste pour en mettre une couche, arrêtons.
On va poursuivre dans les projets inutiles avec un retour, ce ne sera sûrement pas le dernier, autour du Lyon-Turin, puisque l'Italie devrait annoncer demain, normalement vendredi, la poursuite ou non du projet, puisque le gouvernement italien a demandé mais alors ça c'est annoncé demain, mais en même temps, aujourd'hui on a appris que le gouvernement italien demandait à la France et à l'Union Européenne de discuter d'une éventuelle répartition différente des coûts économiques. Donc il y a deux trucs qui se télescopent. Alors à mon avis c'est fait exprès, c'est intentionnel, parce que suivant la réponse de la France et de l'Union Européenne sur une répartition différente, comme ils disent, des coûts économiques, c'est-à-dire donner plus d'argent à l'Italie, ils répondront oui ou non. Du coup, à mon avis, ils ne vont pas répondre demain, puisqu'ils viennent de questionner aujourd'hui la France et l'Union Européenne. On rappelle que l'Italie n'est pas cohérente sur le sujet, puisque dans ce gouvernement populiste d'extrême droite et un peu gauchisante, mais pas beaucoup, il y a deux avis très différents, puisque la partie d'extrême droite, la Ligue, est plutôt pro-ligne à grande vitesse, et le mouvement 5 étoiles, les populistes soi-disant de gauche, eux, ils sont plutôt contre, et ils estiment, à juste titre d'ailleurs, que c'est un projet inutile. On rappelle qu'il y a plein d'alternatives, notamment l'amélioration des lignes actuelles. Donc il y a une espèce de bataille. Alors on en saura peut-être plus demain, ou vraisemblablement dans les semaines qui viennent, suite à la demande. Grosso modo, les Italiens ont calculé, ça va pas être rentable, mais alors pas du tout. Donc qu'est-ce qu'ils demandent ? Donnez-nous d'argent si vous voulez la faire, cette ligne pas rentable. Point. Voilà. Voilà où l'on en est aujourd'hui de cet énorme projet inutile. Et puis je vais vous proposer effectivement quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser si vous avez envie d'avoir un sujet polémique avec vos amis au bistrot, au boulot, à la pause café, à la pause clope, je ne sais quoi. Lancez le débat suivant, qu'on a nous régulièrement, mais pas sur celui-là. Peut-on encore écouter un artiste que l'on estimerait non respectable ? Je peux prendre des exemples connus comme Paul Gauguin, par exemple, qui on peut apprécier.
Alors, des artistes tous, c'est-à-dire pas juste des parce que tu dis écouter, c'est-à-dire s'intéresser.
Attends, oui, s'intéresser. Hein? Alors, par exemple, je vais prendre Gauguin et après on va parler du vrai sujet, parce que Gauguin, c'est pas le coup d'en parler. Gauguin, tendance pédophile quand même. Parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a pu faire, on doit arrêter d'avoir un tableau de Gauguin chez soi. Alors on n'a pas des vrais Gauguins, enfin nous on a, ouais, parce qu'on n'a pas les moyens, mais une copie d'un Gauguin. Alors la question, elle vient suite à la diffusion sur HBO, chaîne américaine, d'un documentaire qui s'appelle Living Neverland, autour de Michael Jackson. Et donc deux hommes accusent, alors c'est pas les premiers, hein, Michael Jackson, de les avoir agressés sexuellement quand ils étaient petits. Il y a eu pas mal d'affaires, tout a été souvent étouffé, il y a quand même de très lourdes suspicions sur Michael Jackson, aucune condamnation jusqu'à maintenant, on rappelle qu'il est quand même mort. Et la question, elle est, et ce qui va vous permettre d'animer certaines de vos soirées, doit-on continuer à écouter Michael Jackson en sachant qu'il a agressé des gens, ou doit-on arrêter d'écouter un artiste dont on estime que les comportements ne correspondent pas au sien. Voilà, je vous laisse débattre. Je sais que toi tu voudrais boycotter. Alors, moi, je pense que l'œuvre doit être séparée.
On pourrait dire qu'il y a des radios québécoises qui ont décidé de ne plus diffuser la musique de Michael Jackson. Moi, effectivement, je pense que les deux ne sont pas séparables. On a souvent ce débat tous les deux. Je pense que l'artiste qui aujourd'hui est accusé dans les mouvements MeToo d'être un violeur, j'ai pas envie d'aller le voir au cinéma. Très, très clairement. Moi, j'aime pas bien aller voir les comédiens qu'on retrouve dans les films qui sont scientologues et qui l'affirment. C'est la rigueur, t'as ta religion et t'en fais ce que t'en veux, c'est pas mon problème. Mais dans les sectes, oui, ça me pose problème quand cette personne, elle se balade en France et vient serrer la main de notre président. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, des violeurs, des pédophiles sont un problème et que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les boycotter, enfin je veux dire, après
non,
tout.
Mais la question, voilà. Elle est, voilà, doit-on séparer finalement l'œuvre de l'artiste ?
Moi je te réponds non, mais je te l'ai déjà dit.
Voilà. Moi je répondrais plutôt tendance oui.
Voilà. On vous a bien foutu la merde chez vous, j'espère.
C'était fait exprès. Voilà.
Mais donc, vous voyez, c'est un débat nous qu'on a souvent parce que moi, en fait, là où je, par exemple, je te fais souvent cette réflexion-là, c'est que toi, tu mets de l'affect et que tu vas me citer des personnes précises et que moi, je parle en généralité. C'est-à-dire que moi, je vais pas prendre Michael Jackson, je m'en fiche. Je parle juste d'une manière plus globale et que ça m'intéresse pas de savoir si c'est un artiste en particulier ou pas qui pourrait peut-être avoir fait quelque chose qui aurait peut-être été en prison. Et puis aurait socialement fait sa peine, comme on dit. C'est pas tant ça le problème, c'est que d'une manière générale, l'artiste c'est un travailleur, une travailleuse, mais qu'en même temps il est une personne publique et que quand on est connu, c'est quand même compliqué de faire l'impasse sur quelqu'un qui est un homme violent par exemple.
Du coup, on doit arrêter de voir les films de Bertolucci suite à ce qu'on a su sur Le Dernier Tango à Paris.
On le savait, ça aussi, c'était pas caché.
Oui.
Sauf que les gens veulent pas voir aussi certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, il y a un musicien marocain qui est accusé de viol en France. Il a été il a eu des soucis avec la justice française, mais en fait il est extrêmement soutenu par des tas de femmes, hommes et femmes, qui refusent d'admettre qu'il ait pu faire du mal à des femmes. Et il n'y a pas eu une affaire, il y en a plusieurs. Et donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui est soutenu par ses fans, oui, j'en fais même des lapsus, et ça dépasse nos frontières. Et il se croit un petit peu, je pense, intouchable, de fait, d'être soutenu de cette manière-là.
Voilà. Oui, mais moi, c'était plutôt par rapport à l'œuvre elle-même.
Ouais, mais c'est l'œuvre, tu peux pas bien.
Indépendante, finalement.
L'œuvre, elle est liée à l'artiste, et c'est. Voilà.
Bon. Donc voilà.
Je vais vous parler d'une autre œuvre si tu veux. Oui. Parce que du coup, je vais vous envoyer voir une pièce de théâtre au théâtre de la Croix-Rousse, précisément, c'est sur le plateau de la Croix-Rousse, bizarrement. Hein. Alors, c'est une pièce mise en scène par Jean-Pierre Barreau sur un texte de Kerry James. Vous connaissez peut-être Kerry James ?
C'est un rappeur ?
Ouais, de la vieille école. Rappeur politique. Et qui, si vous ne le connaissez pas, peut-être que si vous êtes trop sur les réseaux sociaux, vous savez qu'en ce moment, il a fait causer de lui parce qu'il a pris parti, mais comme tout le monde, sur l'affaire Décathlon. Avec le hijab.
Ah oui.
Et que ses arguments se tiennent, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, chez Kerry James, c'est qu'il argumente tout ce qu'il raconte. Et que là, par exemple, il en veut. On va faire très court parce que c'est pas ça mon propos. Il en veut à Decathlon d'avoir retiré son hijab parce que lui, il estime qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont discriminés en France parce que des femmes portent le hijab et ça les empêche d'aller à l'école, à la fac, du travail à cause de ce bout de tissu. Et il l'argumente, et qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il l'argumente, c'est très intéressant. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est son texte, sa pièce qui s'appelle Avif, qui a déjà beaucoup tourné en France et qui est donc proposé au Théâtre de la Croix-Rousse. Je suis pas sûre qu'il y ait des places, je le dis, ça c'est fait. Il est sur scène Kerry James avec Yannick Landrin et il nous propose un face-à-face verbeux, très très beau. Ça démarre simplement sur une idée simple. Deux élèves avocats vont se retrouver pour un concours d'éloquence autour d'une question. L'État est-il seul responsable de la situation dans les banlieues ? Oui, non, vous savez comment ça se passe. Quand sur les concours d'éloquence, chacun se retrouve à devoir défendre une partie, qu'il soit d'accord ou pas. Et Kerry James joue donc un élève avocat noir qui vient de la banlieue. Son partenaire, Yannick Landrin, joue un blanc bourgeois parisien. On est évidemment dans une caricature, mais enfin, il y a plus de blancs bourgeois chez les avocats que de noirs de la banlieue. Et ce qui est intéressant dans ces face-à-face, c'est que moi, je tangue d'un côté et de l'autre dans les arguments et les contre-arguments. C'est-à-dire que c'est jamais si simple, la vie. Et Kerry James vient donc lui porter l'idée dans son débat que non, l'État n'est pas seul responsable de la situation des banlieues et que ce sont aussi les banlieusards qui sont responsables, pendant que le bourgeois parisien va défendre que si c'est à cause de l'État, si on en est là dans les banlieues. Et c'est très marrant parce qu'il inverse évidemment ce qu'on pourrait penser dans le débat d'idées d'abord, que le parisien va dire mais tout ça est bien la faute des petits arabes. Et non, en fait, il arrive à inverser les propos de la caricature. Et à chaque fois, en même temps, ça rebondit. Déjà, au niveau scénique, c'est magnifique. On a deux acteurs vraiment très très bons. Kerry James a un flow quand même, c'est un rappeur. Oui. Donc, il se transforme en comédien, en acteur. Là, il est absolument magnifique. Yannick Landrin lui répond du tac au tac et porte très très bien le jeu. Ce qui est très chouette, c'est qu'à un moment, les gens qui étaient assis à côté de moi ont oublié qu'il y avait un spectacle et venaient prendre parti. C'est-à-dire qu'on avait plein de gens dans la salle qui avaient des réactions. Moi, je suis pas d'accord. Oh, ouais, non, mais t'as vu ce qu'il dit. Et donc, les gens ont oublié qu'on était face à un texte, un spectacle, à du spectacle vivant. Et donc, c'était ça qui était très beau. C'est qu'il arrive sur un débat, évidemment très politique, la vie de la cité, mais très politique, très engagé, très militant, sur les deux côtés du mot politique, à nous faire vibrer sur une question bête, la banlieue.
Et du coup, il n'y a pas de réponse toute faite, super simple.
Et il n'y en a pas.
Voilà.
Et ça, c'est très chouette. Et c'est très, très beau. C'est une très belle pièce. C'est un beau test de Kerry James que moi, je vous invite vraiment à aller découvrir ou à découvrir simplement ce texte. On a vraiment une belle performance d'acteur sur scène. Un texte qui est vif, vraiment, qui tape. On a la voix de Jean-Pierre Barreau, le metteur en scène, qui vient de temps en temps ponctuer aussi ce débat. Et puis, c'était une belle idée de partir d'un concours d'éloquence avec des avocats pour se batailler, en fait, c'est-à-dire vraiment. S'affronter sur un débat d'idées sans qu'on sache vraiment qui va porter quoi comme idée à un moment, et puis de se retourner, de plus savoir finalement ce qu'on a envie de soutenir, parce que la vie n'est jamais aussi simple. Et voilà, c'est aussi un débat d'idées qu'on vous lance hein, après les compléments alimentaires ce dimanche. Vous pourrez vous demander ce qu'on fait de Michael Jackson et qu'est-ce qui est arrivé aux banlieues et à qui c'est la faute.
Voilà.
Ça vous fait un beau dimanche, non?
Ouais, j'avais pas mal de polémiques là. Si vous êtes sûr que ça va gueuler ah bah, dans tous les sens.
Je suis pas sûr que ce soit forcément que des polémiques, mais en tout cas, c'est des débats de société et des débats d'idées.
Très bien. Il est 19h57 minutes à la pendule la plus rebelle des radios. D'ici 3 minutes, nous avons la petite cuillère qui prendra l'antenne pour parler de l'univers carcéral. Et d'un point de vue anticarcéral, bien évidemment. Nous allons faire un petit agenda. Alors, rappelez donc que demain, c'est la journée du droit des femmes et que Radio Canu en profite, enfin pas tout à fait Radio Canu, mais certaines émissions de Radio Canu et certaines animatrices de Radio Canu, notamment Lilith, Martine et les autres, et On n'est pas des cadeaux, qui est la double émission qui a lieu le vendredi à 17h.
Qui fête leurs 10 ans.
Qui fête leur un peu plus de 10 ans, 10 ans et demi, ils mettent. Qui vont prendre l'antenne. Qui volent l'antenne, qui prennent, qui phagocytent l'antenne jusqu'au bout de la nuit. Alors peut-être pas jusqu'au bout de la nuit, mais a priori jusqu'à minuit, donc de 17h à minuit, pour parler d'abord ce qu'ils ont l'habitude de faire, elles, ils et elles, dans leurs émissions. On n'est pas des cadeaux, c'est plutôt autour des trans PD Guin et puis Lily Martin et les autres autour du féminisme. Voilà,
un Canu Info avec des femmes. Alors sachez que si vous avez l'habitude de venir picoler dans la radio et que vous êtes un homme, couillu, vous allez rester chez vous.
Voilà.
Ou aller boire ailleurs. Voilà, parce que c'est évidemment un moment spécial qui est accordé aussi pour ce temps. Et donc, c'est une non-mixité choisie. Voilà, donc c'est aussi un moment. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça change aussi cette ambiance du vendredi soir qui est parfois très enfumée, très alcoolisée et très masculine. Voilà.
Oui, devant, mais vous ne vous rendez pas compte à l'antenne.
Voilà.
Voilà, c'est pour demain. Toujours dans cette thématique.
Quoique la bande de métal du vendredi est assez. Est peu enfumée et peu alcoolisée, mais très masculine.
C'est vrai. Samedi, à la Librairie des Livres, à 15h, comme souvent, quand ils font des rencontres, autour, avec Salima Amari, autour de son livre qui s'appelle Lesbienne de l'immigration, construction de soi et relations familiales. Donc, c'est le nom du livre aux éditions du Croquant et qui viendra en parler. Et puis, toujours dans cette thématique suite à la journée du droit des femmes. Dimanche, on a une soirée à l'atelier du Chat-Perché. L'atelier du Chat-Perché, c'est un atelier collaboratif de vélo qui est dans le 7e rue Salomon-Reynard, au 29 très exactement de la rue Salomon-Reynard. Et il faut une petite teuf à 19h, une soirée mi-punk, mi-rap, essentiellement avec des meufs, comme ils le disent, sûrement sur le scène et en DJ, puisqu'il y a des groupes qui vont jouer. Mais c'est ouvert à toutes et tous, si j'ai bien tout compris, à 19h, donc à l'atelier du Chat-Perché. Et c'est l'occasion d'aller rencontrer ce lieu sympathique. Surtout qu'ils ont des problématiques, ils ont une problématique un peu stressante qui arrive, c'est qu'ils vont perdre le local et ils cherchent un nouveau local, puisqu'ils sont toujours dans des situations comme ça, précaires. Ça vous permettra aussi de connaître un peu ce que fait cet atelier vélo.
Alors on découvre un lieu et on rencontre des gens, mais c'est juste une
histoire
syntaxe. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Il y avait donc la marche de demain à 19h aussi, manif de nuit, dans le cadre donc de cette journée pour nous les femmes. Voilà, ça m'énerve les journées comme ça. Mais enfin bon. Maintenant que je sais qu'on va être plein dans l'armée, qu'est-ce que tu veux ?
Voilà, très bien, tout va bien. Les femmes vont faire la guerre, comme quoi, hein, au lieu de s'élever, au lieu que les hommes s'élèvent au niveau des femmes, les femmes se rabaissent au niveau des guerriers que certains hommes sont. C'est dommage, hein, quand même. Hein. C'est dommage.
Bon, enfin, ça peut être une chouette journée.
Pour l'égalité des trois, détruisons tous les pouvoirs, toutes les armées, et comme ça, nous aurons une égalité d'office. En attendant, tout de suite, l'émission La Petite Cuillère.
Ciao, ciao, on retrouve la semaine prochaine.
Bye, bye.